Agathie, princesse des Scythes, par Madame d'Auneuil. Les Scythes qui habitaient sur les bords de l'Arax furent autrefois gouvernés par une reine, petite fille de Thomyris, si connue dans l'histoire par la mort du grand Cyrus. Elle portait le même nom que cette cruelle princesse et n'avait pas moins de fierté. Elle avait épousé un prince fort accompli qui mourut dans une bataille contre les Isones, peuple qui, quoique scythe, ont de grandes villes très bien policées. Il laissa la reine grosse d'une fille, dont elle accoucha peu de temps après sa mort, qu'elle nomma Agathie. C'était un chef-d'œuvre de la nature que cet enfant. Dès le moment de sa naissance, les fées, qui se plaisaient beaucoup parmi ces peuples belliqueux, la comblèrent de tous les dons qui pouvaient la rendre parfaite. La reine, sa mère, ne se lassait point de l'embrasser. Elle ressemblait si fort au roi son père qu'elle lui en était encore plus chère. Cependant, dès qu'elle put souffrir les fatigues de la guerre et dès qu'elle eut réparé les désordres que la mort du roi avait mis dans son armée, elle songea à le venger et, laissant la jeune princesse aux tentes royales, elle se mit en campagne. Personne n'ignore que les femmes scythes ne sont guère moins vaillantes que les hommes. Les guerres que la cruelle Thomyris a soutenues contre le vainqueur de la Scythie sont assez fameuses pour ne pas s'étonner que sa petite fille voulût combattre elle-même à la tête de son armée pour venger la mort de son époux. Le roi des Isones, qui s'était bien douté que ses ennemis ne le laisseraient pas en repos, s'était avancé sur ses frontières dans une grande plaine. Un petit ruisseau séparait les deux armées qui, étant guéables en beaucoup d'endroits, ne les empêchaient pas de se joindre. Les violents transports qui agitaient le cœur de Thomyris ne lui donnèrent que le temps nécessaire pour ranger ses troupes en bataille et, leur ayant fait une courte harangue sur l'obligation qu'elles avaient de bien combattre pour apaiser les mânes de leur roi par la mort de son ennemi, elle passa la première le ruisseau. Son exemple fut suivi de toute l'armée. Le roi des Isones les reçut en prince accoutumé de vaincre. Le combat fut long et sanglant de part et d'autre. La victoire semblait pencher du côté des Isones. Mais la superbe reine, remarquant le désordre de son aile gauche, y courut et, ranimant ses soldats par les grandes actions qu'ils lui virent faire, honteux qu'une femme leur apprît à vaincre, ils se rallièrent et, chargeant ceux qui les avaient vaincus, ils les contraignirent de leur céder la victoire. Le désordre devint général dans toute l'armée du roi des Isones, qui, pour éviter de tomber entre les mains de son implacable ennemi, se retira avec fort peu de monde dans une ville de la frontière. La reine ne goûta pas le plaisir de sa victoire par le chagrin de n'avoir pas son ennemi en sa puissance. Tout le sang qu'elle avait répandu ne pouvait satisfaire son cœur irrité si elle ne versait pas celui du roi des Isones. Elle savait que les Scythes combattaient avec beaucoup de valeur, mais ils ne savaient point faire de siège et elle ne doutait pas que son ennemi ne se retirât dans sa ville capitale. Elle tint conseil de guerre sur le champ de bataille avec ses généraux pour savoir si l'on poursuivrait le roi des Isones. Ils lui représentèrent que, quoique son armée fût victorieuse, elle avait besoin de repos et qu'il ne fallait pas s'engager dans le pays ennemi sans le connaître. Toutes ces raisons n'étaient point du goût de Thomyris, elle ne respirait que la vengeance. Tout ce qui la retardait la désespérait. Elle leur répondit donc que les dieux étaient trop justes pour n'être pas de son parti, qu'il ne fallait pas donner le temps à l'ennemi de gagner Isone, qui était une ville presque imprenable, qu'il fallait le surprendre dans Hispanis, où il était encore, qui, étant peu forte d'elle-même et défendue par des soldats demi-vaincus de peur, ne leur résisterait pas. Enfin, il fallut se rendre à des raisons si pressantes. L'armée, le lendemain au point du jour, marcha par des défilés très dangereux et, après 3 jours de marche, arriva devant Hispanis. Ce n'est pas mon dessein de raconter exactement ce qui se passa dans cette sanglante guerre, c'est l'histoire d'Agathie et non celle de Thomyris que j'écris. Je me contenterai de dire que cette vindicative princesse, après un siège assez long, contraignit Hispanis de se rendre, et que, n'y trouvant pas le roi, elle fit passer au fil de l'épée ses malheureux habitants, et, poussant sa fureur et sa victoire jusqu'à la ville capitale, elle y mit le siège, 2 ans après être sortie de City. Enfin, Isdon suivit la destinée du reste du royaume. Elle y entra triomphante au bout de 12 ans de guerre. Le roi fut pris et mené devant la fière reine, qui le fit charger de chaînes, et voulant le sacrifier sur le tombeau de son mari, elle le fit conduire au palais. Elle y trouva la reine sa femme, accompagnée d'une jeune princesse. Elle les consigna dans la même prison de ce prince infortuné, et elle ne resta dans Isdon qu'autant de temps qu'il lui en fallut pour faire reposer son armée. Après avoir laissé, dans cette ville et dans le royaume, des gouverneurs pour conserver ses conquêtes, elle reprit le chemin de City, en menant avec elle le roi, sa femme, sa fille et 2 jeunes princes, ses neveux. La joie fut grande aux tentes royales du retour d'une si glorieuse princesse. Agathie vint au-devant d'elle avec toute la cour. La route était bordée de peuple empressé de voir sa souveraine. La jeune princesse se jeta aux pieds de la reine, sa mère, qui la releva avec empressement. Dieu, qu'elle fut contente de la voir si belle! Rien ne pouvait égaler la beauté de sa taille que celle de son visage, telle qu'on dépeint Vénus quand elle voulut emporter l'avantage sur les 2 déesses. Toute l'armée ne pouvait se lasser de pousser des cris d'admiration de voir leur princesse si accomplie. Elle vit avec douleur ses victimes couronnées et chargées de chaînes qui suivaient la reine. Surtout Ménalippe, c'était ainsi que se nommait la princesse esclave, lui attendrit si fort le cœur qu'elle en détourna la tête pour cacher les larmes qu'un tel spectacle si touchant arrachait de ses beaux yeux. Toute cette nombreuse cour arriva aux tentes royales, où l'on garda soigneusement le roi des Isdon et sa famille, jusqu'au jour destiné pour sa mort. Ce devait être celui où le roi avait été tué, qui n'arrivait que dans 6 mois. Les Scythes, qui sont accoutumés d'immoler à leur dieu cruel les étrangers qui passent sur leur terre, attendaient ce jour avec impatience. La seule Agathie plaignait ce malheureux prince, et, ne pouvant s'empêcher de le témoigner à la reine, elle lui demanda pour grâce qu'il fût traité en roi et qu'il lui fût permis d'avoir Ménalippe auprès d'elle. Elle le lui accorda avec peine. La jeune princesse n'en eut pas plus tôt la permission qu'elle courut chez la reine des Isdon, à qui elle dit qu'elle emploierait tout son crédit auprès de Thomyris pour sauver la vie à son mari. Ménalippe ne voulait point quitter la reine sa mère, mais elle lui fit comprendre qu'il leur était de conséquence qu'elle ménageât l'amitié de la princesse. Elle suivit donc Agathie en versant des larmes et fut remerciée Thomyris de son indulgence. Depuis ce jour-là, ces princesses devinrent inséparables. Elles s'aimaient tendrement, leur âge et leur beauté étaient pareils, et leur esprit, dans une si grande jeunesse, n'avait rien qui sentît l'enfance. Elles prenaient souvent leur promenade le long du fleuve. Un jour, qu'elles s'étaient plus éloignées que de coutume, le cheval d'Agathie prit le mordant et, courant avec vitesse, il l'eut bientôt éloigné de sa suite. Sa frayeur était extrême, elle poussait des cris dont le rivage retentissait. Un jeune berger qui gardait son troupeau les entendit et, courant au-devant du cheval de la princesse, il lui présenta le fer de sa houlette et, prenant sa bride, il l'arrêta. Il lui donna le temps de sauter à bas, où, se laissant aller sur l'herbe à demi morte de frayeur, elle n'eut pas la force de remercier son bienfaiteur. Cependant, toute la cour arriva dans le moment. Ménalippe courut les bras ouverts embrasser Agathie, qui, lui rendant ses caresses, « Sans ce beau berger, lui dit-elle, j'étais morte, ma chère sœur !» Chacun s'empressa de remercier ce jeune homme, dont la mine et la beauté, malgré son habit de berger, inspiraient du respect. Il ne répondait point à tout ce qu'on pouvait lui dire. Il était immobile, les yeux attachés sur la princesse. Mais quand elle se leva pour s'en aller, et que, le regardant avec cette douceur charmante qui lui était si naturelle, elle lui dit qu'elle informerait la reine sa mère qu'elle lui devait la vie et qu'elle aurait soin de sa fortune. Ce que j'ai fait, madame, lui dit-il, ne mérite point de récompense. Je suis assez payé par le plaisir de vous l'avoir rendu. » Après cela, la princesse s'en retourna aux tentes royales où elle conta à la reine l'aventure qui lui était arrivée. Elle n'oublia pas de lui vanter le service que lui avait rendu le berger, sa bonne mine et l'air de grandeur qui était répandu sur toute sa personne. Thomyris commanda qu'on cherchât ce berger dans toute la contrée, mais ce fut inutilement, l'on ne put le trouver. La reine témoigna en être fâchée, mais Agathy en eut un véritable chagrin. Souvent son idée le lui mettant dans l'esprit, l'amour, se cachant sous le masque de la reconnaissance, occupait le cœur de la princesse sans qu'elle s'en aperçût. Elle devint plus rêveuse qu'à l'ordinaire, elle cherchait la solitude, et la seule Ménalipe était confidente de ses inquiétudes. Cependant, le temps destiné pour la mort du roi des Isdônes approchait. Agathy avait vainement imploré la clémence de Thomyris, elle n'avait pu obtenir la grâce de ce malheureux roi, et croyant que plus elle verserait de sang, plus elle satisferait les manes plaintives de son époux, elle voulait aussi sacrifier les deux jeunes princes prisonniers. Elle donna seulement aux larmes de Ménalipe, la reine sa mère. Cette pauvre princesse était inconsolable. Agathy oublia quelques jours le beau berger pour consoler son amie. Enfin, le jour fatal arriva. L'on fit dresser un grand bûcher devant la tente de Thomyris. Toutes les troupes entouraient cette place, les échafauds étaient aux quatre coins pour placer toute la cour. Celui de la terrible reine était couvert d'un riche dais, et dès qu'elle y fut placée, le grand prêtre sortit de la tente du roi des Isdônes. Ce malheureux prince parut, couvert de tous ses habits royaux. Les jeunes princes le suivaient, si peu touchés du pitoyable état où ils étaient, que leurs barbares ennemis ne purent se défendre d'un sentiment de pitié. La cruelle Thomyris triomphait, et de ses yeux avides du sang de ses victimes couronnées, les regardait avec une maligne joie. Cependant, le roi arriva au pied du bûcher et, ne daignant se plaindre de son sort, monta là-dessus sans attendre que le grand prêtre le contraignît. Ses neveux en firent autant et, prenant eux-mêmes les flambeaux mortels des mains des ministres cruels, ils y mirent le feu. Une action si héroïque fit jeter des cris d'admiration à tout le peuple et penser à toute la cour que des princes qui savaient si bien mépriser la mort mériterait de vivre éternellement. La vindicative reine, voyant avec un plaisir extrême les flammes prêtes à dévorer ces illustres victimes de sa fureur, quand tout à coup l'on vit en l'air un chariot traîné par quatre dragons volants qui s'abaissa légèrement sur le bûcher. Il en sortit une grande femme, vêtue comme l'on dépeint Pallas. Ses armes étaient toutes couvertes de pierreries, son casque, dont la visière était levée, laissait voir un visage plein d'une noble fierté. Elle s'approcha des princes, et les faisant monter dans son chariot, elle s'y plaça auprès d'eux, et les dragons reprenant leur vol, se perdirent bientôt dans les airs d'où ils venaient de descendre. Un spectacle si nouveau avait rendu le peuple immobile. Thomyris poussait des cris de rage et un domestique de la princesse courut l'avertir d'une aventure si surprenante. Ménalipe pensa mourir de joie et la reine des Isdônes ne pouvait croire un si grand bonheur, mais comme ils étaient dans ses premiers transports, ils se sentirent enlevés. La tente où ils étaient s'étant fendue en deux pour les laisser passer, dans le moment que la reine, désespérée de se voir arracher ses victimes, venait dans le dessein de les immoler de sa propre main. Quel redoublement de rage pour cette impitoyable princesse! Elle s'en prit au dieu protecteur de son empire et jura de ne leur plus offrir de sacrifice, mais ce n'étaient pas là tous les maux qui devaient lui arriver dans cette journée qu'elle avait cru si propre à satisfaire sa vengeance. À peine le bûcher fut-il consumé, que l'on vit naître de sa cendre un monstre si affreux que tout ce que les poètes nous ont dit de la chimère, que Bellérophon vainquit avec tant de gloire, n'avait rien de si terrible. Des tourbillons de flammes lui sortant par les yeux et les narines, firent voir un feu nouveau. Le peuple épouvanté s'enfuit jusque sur les bords de l'Arax. Et la reine, entendant les cris que les malheureux qu'il dévorait poussaient, commanda à toutes les troupes assemblées pour la garde du camp de le tuer. Mais toutes les flèches qu'on décocha sur lui, ne pouvant percer l'écaille dure dont il était couvert, ne firent qu'irriter sa fureur, et, passant au travers de l'armée, il brûla et terrassa tout ce qui se présenta à son passage. Il fut chercher sa retraite dans une forêt, derrière les tentes royales dont il venait tous les jours désoler le pays par les meurtres qu'il faisait. Les biens de la terre n'étaient pas exempts de sa fureur, les consumant des flammes qui sortaient de ses narines. La désolation était générale par toute la city. Ces peuples si braves, se trouvant accablés par une puissance supérieure, reconnurent, mais trop tard, que la cruauté de leur reine leur attirait des malheurs qui allaient détruire leur pays. Rien n'était exempt de cette calamité publique. Le monstre dévorait les vieillards. Les enfants même et les femmes n'étaient pas exempts de sa dent meurtrière. Thomyris cherchait en vain un remède à de si grands maux. Elle faisait des vœux à ces mêmes dieux dont, dans sa colère, elle avait juré de détruire les sacrifices. Ils étaient sourds à sa voix. La princesse mêlait incessamment ses prières à celles de sa mère, mais elle n'était pas écoutée, et le monstre cruel redoublait tous les jours ses cruautés. Pour comble de désespoir, on apprit que la fée Amazone avait conduit le roi des Isdones et toute sa famille dans Isdone, qu'elle avait fait soulever les peuples qui, ayant surpris les garnisons de Thomyris, les avaient taillés en pièces et qu'ils avaient remis leur roi sur le trône, qu'ils se préparaient de venir tirer vengeance des Scythes, accompagnés de la fée Amazone. Il n'était pas besoin de ce dernier coup de malheur pour accabler Thomyris. Cependant, ne sachant plus quelle partie prendre pour se tirer du labyrinthe où elle était tombée, elle prit la résolution d'avoir recours à une fée très puissante qui avait son palais dans une forêt voisine de l'Arax et qui était du nombre de celles qui avaient comblé la princesse Agathie de dons. La fée la reçut avec tendresse, mais elle lui dit qu'elle ne pouvait finir les malheurs ou la vengeance sanglante qu'elle avait voulu prendre du roi des Isdones l'avait plongée, que la fée Amazone avait juré sa perte, que le monstre altéré du sang royal demandait sa fille, que c'était à elle à sacrifier son sang pour conserver le reste de ses malheureux sujets, qu'elle ne prévoyait de fin à ses maux que par son plus grand ennemi. Une si triste réponse mettait la reine dans le dernier désespoir. Elle ne pouvait le cacher, toute la cour qui l'avait suivie en était témoin. Elle ne doutait point que ce peuple cruel ne la contraignît de livrer Agathie au monstre plutôt que de se voir périr. Elle retourna aux tentes royales dans une consternation que rien ne pouvait égaler. Toute la cour était dans le même état. Agathie était si généralement aimée qu'on regardait sa mort comme le plus grand des maux. Cette princesse ignorait son sort, elle n'avait point suivi Thomyris chez la fée, et, venant au-devant d'elle, elle lui demanda avec empressement si l'on pouvait espérer un remède au malheur public. « Ah, ma chère fille !» lui dit-elle en l'embrassant dans un torrent de larmes. « Que nos maux durent éternellement, plutôt que de les voir finir par votre mort !» La princesse frémit au discours de la reine, et, sans oser lui demander une plus grande explication, elle attendit son arrêt. Thomyris se repentit de ce que sa douleur lui avait fait dire, mais voyant qu'elle ne pouvait plus lui cacher, elle lui apprit ce que la fée lui avait prédit, en lui jurant que toute la city entière périrait s'il fallait un sang si précieux pour la sauver. « Je ne mérite pas de si tendres marques de votre bonté, madame, » lui dit la belle princesse, après avoir essuyé quelques larmes qu'un sort si affreux arrachait de ses beaux yeux. « Si les dieux veulent ma vie pour garantir vos sujets de la dent meurtrière du dragon, je la donnerai sans nul autre regret que celui de vous quitter. »« Non, ma fille, s'écria la reine, c'est en vain que les dieux cruels me demandent votre vie. Je saurai garantir une tête si chère. »« Ce serait bien inutilement, reprit la princesse, que vous voudriez m'arracher à leurs ordres. Ils m'en puniraient sans que ma mort fût utile à vos malheureux sujets. Ainsi, madame, ne me rendez point plus criminelle que le dragon monstrueux. Depuis que la fée vous a annoncé leur volonté jusqu'au moment de ma mort, je serai coupable de tous les meurtres qu'il fera. » Tout le monde admirait la constance d'Agathy dans une si grande jeunesse et de si nobles sentiments. Redoublant la tendresse de la reine, elle lui défendit si absolument de parler davantage qu'elle n'osa plus le faire. Cependant, la fureur du monstre redoublait. Il semblait venir demander tous les jours sa victime par les meurtres qu'il faisait à toute heure autour des tentes royales. Tout le peuple demandait à haut cri qu'on le délivrât d'un si cruel ennemi et menaçait de prendre la princesse de force si la reine ne voulait pas la livrer au monstre, puisqu'il n'y avait point d'autre moyen de les tirer d'un joug si affreux. Agathy se jeta aux pieds de la reine pour la prier de se rendre à de si pressantes nécessités, lui représentant combien il serait honteux qu'une princesse se fît traîner au supplice. Elle obtint enfin que le lendemain on la livrerait au monstre et, se retirant dans sa tente, elle y passa la nuit à se préparer à ce cruel sacrifice. Le peuple ne sut pas plutôt la résolution de la reine qu'il se calma, et, comme si le monstre eût commencé de se repaître d'un si beau sang, il se retira dans sa retraite sans faire de mal à personne. Le jour ne parut pas plus tôt que la princesse sortit des tentes royales, conduite par la reine tout en pleurs. Toute la cour admirait la force de cette jeune personne. Jamais elle n'avait paru si belle. Il fallait être aussi cruel que le monstre pour n'être pas touché de son sort. Elles arrivèrent au lieu fatal. La reine pensa mourir de douleur quand elle vit le monstre s'approcher. La princesse, le voyant, embrassa Thomyris pour la dernière fois et, s'arrachant de ses bras, elle s'avança au-devant de lui. Mais les dieux protecteurs de l'innocence lui envoyèrent du secours. Le même berger qui l'avait déjà sauvé de l'ardeur de son cheval vint encore pour la tirer d'un si grand danger ou pour perdre une vie qu'il trouvait insupportable sans elle. Il parut au-devant d'elle comme le monstre allait la dévorer et, le frappant du fer de sa houlette, il sut si bien trouver l'endroit mortel qu'il le fit tomber noyé dans son sang. Quelle joie pour la reine quand elle vit sa chère fille délivrée d'un si grand danger. Elle courut à elle les bras ouverts et se tournant vers ce beau berger. « Quel démon favorable à cet empire, lui dit-elle, vous envoie à mon secours, et quelle honte à mes infidèles sujets qu'un étranger vienne tirer leur princesse du supplice où il l'avait condamnée. » « Ah, madame, lui dit Agathy en reconnaissant le berger. « Ce n'est pas la première fois qu'il me rend la vie. C'est lui que vous fîtes chercher avec tant de soin. Sans doute c'est quelque dieu. Un homme mortel ne peut faire ce que nous venons de voir. » « C'est porté trop haut, madame, lui dit le berger, une action qui ne mérite pas tant de louanges. Je loue le ciel qui, malgré tous mes malheurs, m'a conservé jusqu'à ce jour, puisque je puis vous être utile. » « Ah, je n'oublierai jamais un si grand service, reprit Thomyris, et si c'est la fortune qui vous manque pour être heureux, je vous mettrai en un rang où vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre. » Après cela, la reine reprit le chemin des tentes. L'on entendait partout retentir que des cris de joie. Chacun s'empressait de voir le berger miraculeux. Ce peuple si courageux, qui n'avait pu vaincre le monstre, voulait, pour sauver sa gloire, que le berger fût le démon tutélaire du royaume. Dans cette pensée, on lui rendait des respects peu différents de ceux que l'on rendait à la reine. L'armée que le roi des Isdônes levait partout sur ses terres et le secours de la fée Amazone ne les épouvantait plus. Tous les généraux prièrent Thomyris de lui donner le commandement des troupes. Elle n'y était que trop disposée. Voilà donc notre berger devenu général d'armée. Il assure à la reine qu'il sacrifierait sa vie pour se bien acquitter de l'honneur qu'elle et toute la cité lui faisaient. Si la princesse ressentait de la joie de voir que l'on comblait son bienfaiteur de bien, elle avait quelque chagrin de sentir que sa reconnaissance allait plus loin qu'elle ne voulait. La bassesse de sa naissance lui faisait désapprouver les sentiments qu'elle avait pour lui. Quelquefois, pour flatter sa douleur, elle se disait qu'il n'était pas naturel que le jeune homme fût ce qu'il paraissait être. Une chose la confirmait dans cette pensée, c'est qu'elle s'était aperçue qu'il avait un sceptre sur la main. Elle ne pouvait croire que les dieux eussent donné cette marque à un homme d'un rang si bas. Cependant, la reine, qui voulait le combler de bien, lui fit faire un train tout pareil au sien, et lui envoyant des habits semblables à ceux que les princes portent, elle lui ordonna de s'en servir dorénavant. Qu'il était beau dans cet ajustement magnifique! Cela lui paraissait si naturel qu'on ne pouvait croire qu'il ne les eût pas portés toute sa vie. Les services signalés qu'il avait rendus à Agathie lui rendaient l'entrée de sa tente libre à toutes les heures où elle était visible. Il savait si bien en profiter qu'il ne la quittait plus. Ses yeux, quelque contrainte qu'il se fît, ne parlaient que trop de la violente passion qu'il sentait pour elle depuis le fatal moment qu'il l'avait vue sur les bords de l'Arax. Il était consumé d'un si beau feu que, s'il ne l'avait pas suivi dans l'instant, une puissance surnaturelle l'en avait empêché. La jeune princesse prenait assez d'intérêt au beau berger, que nous nommerons désormais Agathrice, nom que la reine lui ordonna de porter, pour s'apercevoir de ce qu'elle lui faisait souffrir, mais se souvenant toujours qu'il n'était pas prince, elle cachait si bien ses sentiments que ce malheureux amant ne croyait pas être entendu. Il savait bien qu'il était né de conditions égales à elle, quoiqu'il ignorât le nom de ceux qui lui avaient donné la naissance. Cette connaissance lui donnait la hardiesse d'aimer la princesse, mais ne pouvant lui en donner des preuves, et craignant de passer pour téméraire, il se contentait de soupirer en secret, cette contrainte le mettait dans un chagrin mortel. La reine, qu'il aimait avec passion, lui en demandait souvent la cause. Si Agathie lui eût fait la même demande, je ne sais pas s'il eût pu se refuser le plaisir de la lui apprendre. Cependant, Thomyris recevait tous les jours des nouvelles que le roi des Isdon était prêt de se mettre en campagne. Elle voulut le prévenir. Elle donna les ordres nécessaires pour que l'armée fût prête à marcher dans peu de jours. Les Scythes, honteux d'avoir contraint leur princesse à se livrer à un monstre cruel, voulurent par tant de belles actions réparer leur barbarie dans cette guerre et que cette infamie fût lavée dans le sang de leurs ennemis. Agathrice attendait avec impatience les occasions de faire voir à la princesse qu'il n'était pas indigne de l'honneur que les Scythes lui avaient fait. Ce n'est pas que la crainte de mourir dans cette guerre, sans qu'elle sût ses sentiments, ne lui redoubla sa mélancolie. Mais le jour destiné pour le départ étant arrivé, Thomyris dit adieu à la princesse. Agathrice ne put prendre congé d'elle qu'en présence de toute la cour. Enfin, il fallut suivre la reine, et le plaisir de se voir à la tête d'une armée composée de si braves gens lui fit, en quelque façon, oublier la passion qu'il avait pour Agathie. Après quelques jours de marche, ils arrivèrent dans une grande plaine où ils découvraient l'armée du roi des Isdon. Le dessein de la reine était de donner bataille le plus tôt qu'elle pourrait, ayant appris par des espions qu'elle avait dans le camp ennemi que le roi attendait un renfort de 10 000 hommes qui ne devait arriver que dans 2 jours, ce qui l'obligea, quoique ses troupes fussent fatiguées, de vouloir combattre le lendemain. Elle donna ses derniers ordres, et dès que le jour parut, Agathrice fit mettre l'armée en bataille et marcha droit aux ennemis. Ils ne refusèrent pas le combat, quoiqu'ils fussent plus faibles, la fée Amazone leur disant que cette journée déciderait de la guerre. Agathrice y fit des choses surnaturelles. La reine ne pouvait assez louer le ciel de lui avoir envoyé cet homme miraculeux. Seul, il s'opposait au prodigieux courage de l'Amazone. Il avait presque défait toute l'armée ennemie. Il était prêt d'immoler à la vengeance de la reine le malheureux roi des Isdon, quand la fée, lui retenant le bras, « Arrête, jeune téméraire, lui cria-t-elle. « Veux-tu faire périr un prince qui t'a donné la vie ?» Agathrice s'arrêta à un discours si surprenant, et la reine, qui n'était pas éloignée de lui, s'approcha et fit signe à ceux qui combattaient dans cet endroit de suspendre leur victoire pour un moment. « Cruelle fée, lui dit-elle, n'êtes-vous pas contente de tous les maux que vous m'avez faits, sans vouloir encore, par une chose si éloignée de la vérité, retenir le bras victorieux de mon défenseur ?»« Trop vindicative princesse, lui dit la fée, les maux que tu as soufferts doivent t'apprendre que les dieux désapprouvent ta vengeance. Mais, loin de t'en punir, je veux te rendre heureuse, sans que rien puisse troubler le reste de tes jours. Sache, Thomyris, que ce prince est véritablement fils du roi des Isdônes, que je l'ai élevé avec soin dans le dessein de faire une union éternelle entre les Isdônes et les Scythes qui vivent sous ta puissance par le mariage d'Agathy et de lui. Voyez, sage roi, dit-elle en se tournant vers le prince, la marque royale que les dieux lui ont donnée, et recevez ce présent glorieux de ma main. Le roi, revenu du premier étonnement que le discours de la fée lui avait causé, regarda cette marque extraordinaire et, reconnaissant le prince son fils, se jeta à son col avec tendresse. « Ah, mon cher Agathrice, lui dit-il, quel démon ennemi vous fait combattre pour m'ôter la vie ?»« Seigneur, lui dit le prince en se jetant à ses pieds, l'ignorance où j'étais de ma naissance ne peut servir d'excuse à mon crime. » De vous dire tout ce que la reine souffrait dans une aventure si surprenante, c'est ce qui ne se peut exprimer. Il lui prit envie mille fois de percer de son épée le roi des Isdônes, dans le temps qu'il embrassait le prince, mais la tendresse qu'elle avait pour le fils lui retint le bras. Dans cette incertitude, Agathrice se tournant de son côté, « Madame, lui dit-il, à quelle extrémité me réduisez-vous si vous ne vous laissez fléchir par un spectacle si nouveau ? Puis-je combattre un roi malheureux qui m'a donné le jour ? Puis-je être dans le parti de vos ennemis après l'honneur que vous m'avez fait et le violent amour que j'ai pour la princesse Agathy ? Non, madame, si vous ne m'accordez la grâce que je vous demande, je me percerai le cœur de cette même épée qui a pensé faire perdre la vie au roi mon père. » « Vous avez vaincu, trop généreux prince !» s'écria Thomyris en lui tendant la main pour le relever. « Je ne puis être ennemi du père d'un prince qui m'a rendu de si grands services. » La fée Amazone, ravie de voir que la reine s'était rendue, vint l'embrasser et lui fit jurer entre ses mains une paix éternelle. Le roi des Isdônes fit la même chose et les vainqueurs et les vaincus, s'embrassant avec tendresse, s'en retournèrent dans leur camp. Agathrice, par le commandement du roi, ne quitta point la reine. Le lendemain, la reine des Isdônes et la princesse sa fille, qui était à Hispanis, arrivèrent au camp. La fée les conduisit chez Thomyris, qui les reçut admirablement bien, et lui présentant le prince. « Madame, dit-elle, voilà le nœud de notre amitié. J'espère qu'elle sera éternelle. » La reine des Isdônes répondit à un discours si obligeant comme elle devait, et lui demandant la permission d'embrasser son fils, elle le prit dans ses bras. La princesse, sa sœur, voulait avoir sa part de ce cher frère, mais la fée, qui voulait achever un ouvrage qu'elle avait conduit par une voie si extraordinaire, dit à Thomyris que, pour rendre la joie aux deux royaumes, il fallait donner Agathy au prince des Isdônes, qu'elle ne pouvait le lui refuser sans ingratitude, puisqu'il l'avait sauvée de la dent meurtrière du monstre. « J'y consens avec joie, répondit la reine des Scythes, et je ne puis assez marquer à mon généreux défenseur la reconnaissance que j'ai pour lui. » « Ah, madame, s'écria l'amoureux prince, que ce prix est au-dessus de mes services !» La fée, qui voulait avancer le bonheur d'Agathy, partit dans le moment dans son chariot traîné par des dragons. Et, descendant aux tentes royales, elle enleva la princesse Agathy, et, la mettant auprès d'elle, elle reprit le chemin du camp. Elles arrivèrent bientôt à la tente de Thomyris. La vue de la princesse surprit agréablement toutes ces royales personnes, mais rien n'égalait la joie du prince. « « Madame, lui dit-il, après que Thomyris eut dit à sa fille le dessein qu'elle avait, serez-vous plus inexorable que la reine? Puis-je espérer que vous ne me regarderez point comme étant sorti d'un sang qui vous a toujours été odieux, et condamnerez-vous le malheureux Agathrice à la mort ?»«
Je suis trop soumise aux ordres de la reine, reprit la princesse en rougissant, et trop reconnaissante des services que vous m'avez rendus, pour laisser mourir le prince des Isdônes.
Ah, ma chère sœur, lui dit Ménalippe, que je vous suis obligée des bontés que vous avez pour mon frère. Qui nous aurait dit, quand nous le rencontrâmes au bord de l'Arax, que ce berger serait votre époux?
Si nous n'étions pas dans la chambre de la reine, reprit la princesse, je lui demanderais par quel enchantement de berger il s'est trouvé fils de roi.
Je vais vous l'apprendre, lui dit la fée. Les deux reines voulurent aussi en être instruites. La fée leur dit que, connaissant par sa science que le prince devait tuer son père, elle l'enleva dans son berceau, elle le porta chez un berger de la city dont elle connaissait la sagesse, et, le donnant à sa femme pour le nourrir, lui recommanda d'en avoir soin.
« Je n'eus pas besoin, dit la fée, de prière pour qu'ils m'accordassent ce que je leur demandais. » L'extrême beauté de ce prince les prévint d'une amitié si forte que je fus en repos. Je laissai passer quelques années sans revoir mon nourrisson, et il pouvait avoir 15 ans quand je fus le revoir. Je fus charmé de le trouver si bien fait et de lui connaître tous les sentiments d'un grand prince sous cet habit de berger.
Ce fut environ dans ce temps, madame, dit-elle à Thomyris, que vous emmenâtes le roi des Isdônes prisonnier et toute sa famille. La princesse Ménalippe devint chère à Agathy. Tout leur plaisir était, comme vous savez, d'aller s'exercer à monter à cheval sur les bords de l'Arax. Vous n'avez pas oublié que, sans mon berger, la princesse était perdue. Mais vous ne savez pas que ce prince fut frappé comme d'un coup de foudre de la beauté d'Agathy. Il écouta tous les remerciements qu'on lui fit des services qu'il venait de rendre à toute la city en la personne de la princesse, sans ôter les yeux de dessus cet objet charmant. Quand elle partit, il voulut la suivre et il faisait déjà quelques pas pour cela. Mais il se sentit transporté en l'air où, après avoir traversé des rivières et des montagnes, on le descendit dans un palais magnifique. Tout ce qu'il vit de beau et de surprenant ne le consola point de n'avoir pas suivi la princesse, quoique, dans la condition où il croyait être né, il sut bien qu'il ne lui serait jamais permis de lui découvrir ce qu'il sentait pour elle. Il vécut ainsi pendant la prison du roi son père, et jusqu'au moment qu'Agathy fut exposée au monstre cruel. Mais mon dessein étant de vous le rendre cher, madame, pour pouvoir faire une paix solide entre deux royaumes que j'aimais, je le fus trouvé. Généreux berger, lui dis-je, la belle Agathy va être la proie du dragon affreux, ses cruels sujets l'y contraignent. Courez la délivrer, et ne craignez point qu'il puisse éviter la mort que je lui donnerai par votre main. Enfin, ne combattez pas en berger qui ne sait que se garantir des loups, mais en grand prince, puisque le ciel vous a fait naître tel. » En disant ces mots, je lui ouvris les portes du palais, et lui fit voir la princesse prête à être engloutie. Il courut à son secours sans me répondre. Vous savez comme il tua le monstre, les acclamations du peuple, votre joie, madame, et comme Agathy le reconnut pour le même berger qu'il avait secouru sur les bords de l'Arax. Je n'ai plus qu'à vous dire que la passion qu'elle lui avait inspirée, dès la première fois qu'il l'avait vue, s'augmenta avec tant de violence qu'il en tomba dans une mélancolie qui l'aurait infailliblement fait mourir, si l'envie qu'il avait de faire dans la guerre des Isdônes des actions dignes de sa princesse n'eût soutenu sa vie. La fée finit ainsi son discours, et les deux reines la remercièrent de la peine qu'elle avait prise. « Vous ne sauriez me récompenser, leur dit-elle, de vous avoir élevé un prince si parfait qu'en consentant que je le rende heureux. » Quelque envie que Thomyris eut que cette Hyménée ne s'accomplît qu'aux tentes royales, elle lui répondit qu'elle n'avait qu'à commander ce qu'elle voulait qu'on fît. La fée lui dit qu'elle aurait soin de tout
et qu'elle n'aurait qu'à trouver bon qu'on vînt la prendre avec la belle Agathie pour la conduire au lieu qu'elle ferait préparer. Après cela, la reine des Isdônes se retira, conduite par son fils. Pour Ménalipe, elle demeura avec sa chère Agathie. Le lendemain, au lever du soleil, on entendit dans les deux camps une musique guerrière qui réveilla les princesses agréablement. La fée Amazone fit prendre les armes à toute la troupe et, ayant fait dresser un autel magnifique dans le milieu de cette grande plaine, elle y conduisit Tomyris et son illustre fille. Elles y trouvèrent le roi et la reine des Isdônes. La fée, ayant pris la main du roi et de Tomyris, leur fit encore jurer une paix éternelle. Après cela, le grand sacrificateur acheva l'hyménée. Ils retournèrent aux tentes de Tomyris au bruit de 1000 instruments et des cris d'allégresse des deux armées. Ils y trouvèrent un repas délicieux. L'après-dîner, toute cette royale troupe eut tous les plaisirs qu'ils auraient pu souhaiter dans la cour la plus tranquille, et le soir étant venu, la fée mena les deux charmants époux dans une tente toute brillante d'or et de pierreries. Elle était éclairée de 100 lampes de cristal de roche, et laissant ses amants bien heureux, elle fut préparée pour le lendemain toutes les choses nécessaires pour le départ. Ce ne fut pas sans quelque chagrin que le roi et la reine des Isdônes se séparèrent du prince et leur fils. Pour Ménalipe, elle suivit son cher frère, et la fée les ayant fait monter sur des chariots magnifiques, ils arrivèrent bientôt aux tentes royales, où, après les avoir comblés de tous les dons qui pouvaient les rendre heureux, elle laissa Agathris, paisible possesseur de sa chère Agathie.